Radio Grand Air.
J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me fends le cœur.
Si je connaissais le corps qu'a fait ce tel bon.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
S'il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et oui, nous sommes de retour sur Radio Grand Air pour le cinéma, bien évidemment. Vous le savez, chaque semaine, place au cinéma et on prend l'actualité du cinéma La Brèche à Sainte-Foy-la-Grande avec notre ami Pascal. Pascal, bonjour.
Bonjour Christophe. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 67 d'Entracte.
Nous sommes au calme ce soir.
Oui, c'est calme, t'as vu.
Puisqu'on enregistre l'émission ce 1er mai.
Si, c'est une fois que.
C'est la fête du travail.
C'est la fête du travail, mais il y a quand même du monde dans les salles, hein, tu sais. On a quand même eu pas mal de monde aujourd'hui. Et oui, c'est calme aussi parce que tout le monde est dans la salle en train de regarder les films. Donc.
Voilà, nous sommes tranquilles en train de papoter, de parler cinéma, de parler aussi de ce qui se passe,
d'actualité.
Voilà, c'est toujours très très enrichissant. Alors Pascal, on se retrouve pour cette nouvelle semaine cinéma, en ce mois de mai, et avec cette sélection, cette semaine à La Brèche.
Alors j'ai sélectionné cette film évidemment parmi tant d'autres. Hein. On va parler du dernier Marvel, on va parler des Gardiens de la Galaxie 3. On va parler aussi du dernier film d'Alexis Michalik, Une histoire d'amour. On va parler aussi, là c'est sur un thème de des passeurs de migrants en France. On va parler du dernier film de Thierry Benisti, Le prix du passage. On va aussi parler rugby.
Ah oui, nous sommes dans le monde du pays de rugby, pourquoi pas.
On va parler du dernier film de Philippe Guillard, Pour l'honneur. On va partir aussi au Portugal avec le film de Christelle Alves Meira, donc Alma Viva. On va parler de sorcellerie.
Ah oui, d'accord.
Oui, oui, c'est encore bien ancré.
C'est pas la suite de L'Exorciste,
non,
hein,
non, 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 du tout, non, non, non. On va parler aussi, on va partir au Congo, on va parler du dernier documentaire de Thierry Michel, donc L'Empire du Silence. Et pour terminer, on va partir en Turquie. On va voyager hein, cette semaine.
Ah, c'est bien.
On va parler du film d'Emir Alper, Burning Days. Et
oui.
tu fais de la musique maintenant.
C'est ça.
Et dans le cadre donc de la sortie du film donc Pour l'honneur donc de Philippe Guillard, ben on va. Moi j'ai choisi un réalisateur.
Ouais. Enfin,
il est réalisateur, scénariste et puis il est sportif aussi. Enfin, s'il a fait quand même plusieurs films sur
le sport,
sur le monde du rugby surtout avec le fils Anjo.
Il
parlait également aussi de rugby. Mm-hmm. Voilà, donc j'ai choisi Philippe Guillard donc pour mon personnage de la semaine.
Eh bien, c'est parti Pascal pour cette nouvelle édition d'Entracte, la radio qui aime le cinéma et le cinéma qui aime la radio. Alors on va commencer par rendez-vous Marvel hein, pour les fans,
voilà,
on en parle beaucoup en ce moment. Hein.
Ouais c'est ça, donc ça va être le rendez-vous Marvel évidemment. On va parler des Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est le troisième là.
D'accord, donc si on n'a pas vu les 1 et 2, on est un petit peu à la rue ou peu importe.
Ça c'est une bonne question, alors tu sais que moi je suis pas du tout les Marvel,
non,
je suis vraiment pas un spécialiste là-dessus. Mais je pense que ouais, si c'est le volume 3, oui, vaut mieux voir les autres, je pense. Donc c'est un film américain, donc de 2h30, action fantastique, science-fiction, de James Gunn. Alors James Gunn, évidemment, il a réalisé tous les autres. Les Gardiens de la Galaxie 1, le 2... Mais il a réalisé aussi en 2021 The Suicide Squad, ouais, qui était un petit peu fréquenté. Hein.
Non,
ça ne parle pas.
Ça me parle
non,
pas
il, était pas, il était pas mal. Alors au niveau des acteurs, on va retrouver Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Will Poulter, Sean Gunn, Karen Gillan et Pom Clementi. Alors notre bande de marginaux favorite a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l'univers et protéger l'un des siens. En cas d'échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des gardiens tels que nous les connaissons. Alors l'histoire de Rocket est cette fois le moteur de l'histoire de ce troisième opus. Lorsqu'il a imaginé le nouveau scénario, donc James Gunn n'avait qu'une certitude. Comme il nous dit, il y avait pas mal de choses que je supputais et autant que j'ignorais, mais je savais que pour moi, le cœur du récit reposait sur Rocket et son histoire. D'où il vient et qui il est. C'est un petit animal qui a été enlevé et transformé en quelque chose qu'il n'aurait pas dû être. Il s'est senti complètement ostracisé et aliéné par toutes les autres formes de vie de la galaxie. C'est la raison pour laquelle il est en colère et qu'il a peur. Cette solitude est l'essence même des trois gardiens de la galaxie. C'est drôle parce que les publics les considèrent comme des films légers et amusants, alors qu'ils sont portés par les émotions de Rocket et de ses compagnons, confie le réalisateur. Et il ajoute « Tout l'équipage est formé de marginaux qui ne se sentent pas à leur place. Mais des failles apparaissent entre certains des personnages et ils commencent à s'apprécier et s'aimer les uns les autres. » Et c'est vrai que c'est une équipe que rien ne rassemble au début. C'est vrai que... Et même une équipe, on va dire, est même hétéroclite. Alors l'histoire des Gardiens de la Galaxie 3 se déroule 9 ans après les Gardiens de la Galaxie 2, 2 ans après Avengers Endgame et peu de temps après Thor Love and Thunder. Donc voilà pour vous éclairer, je peux vraiment pas m'étaler plus, tu sais, sur les Marvel, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment pas un spécialiste.
Voilà, il faudra qu'une fois dans l'émission, on invite un spécialiste des Marvel, histoire de nous éclairer un petit peu et d'en savoir un petit peu plus.
Ouais,
c'est
voilà,
pas mal, un
jour, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, je l'ai déjà fait. Hein.
Ah oui, mais voilà.
J'ai déjà fait sur une autre radio, et c'est vrai que j'avais un ami correspondant là, qui venait à chaque fois éclairer un petit peu les toutes ces histoires-là, quoi.
Eh bien, on lance un appel, en tout cas, et on vous invite à aller voir Les Gardiens de la Galaxie 3. Pour les fans de Marvel, hein, c'est le rendez-vous de la semaine. Hein.
Voilà, à mon avis, ce sera le gros film de la semaine. Alors, on le passera en 2D et en 3D. Voilà, pour les amateurs.
Avec lunettes et sans lunettes.
Avec lunettes et sans lunettes.
On va revenir en France avec un autre rendez-vous. Une histoire d'amour. Alors, un amour peut-être un petit peu compliqué. Tu vas nous éclairer sur ce film français qui sort dans les salles cette semaine.
Alors c'est le film d'Alexis, donc Michalik, Une histoire d'amour, c'est un film français d'1h30, c'est un drame. Hein. Mmh. Au niveau des acteurs, on va retrouver Juliette Delacroix, Marcia Sawyer, Alexis Michalik, Pauline Bresson, Léontine Doncieux, Daniel Ngo-Lobé, Julien Cavé et Charles Lelor. Donc c'est l'histoire de Katia et de Justine qui tombent amoureuses. Malgré la peur et l'engagement et le regard des autres, elle décide de faire un enfant, laissant le hasard décider de qui le portera. Mais alors que Katia tombe tombe enceinte, Justine la quitte soudainement. 12 ans plus tard, Justine est retournée à une vie rangée et Katia, qui a gardé l'enfant, apprend qu'elle est condamnée. Contrainte de trouver en urgence un tuteur pour sa fille, elle se retourne vers sa seule option, son frère William, écrivain cynique et désabusé. Alors, après Edmond... Alors, une histoire d'amour, il faut savoir une chose, c'est que c'est adapté d'une pièce, hein, une pièce de théâtre. Hein. Après Edmond, en 2018, c'est la deuxième fois que, avec une histoire d'amour, que Alexis Michalik adapte une des pièces au cinéma. Et comme il nous dit, au théâtre, on raconte, au cinéma, on montre. Le théâtre est un art où la parole est au centre de tout, où les acteurs racontent une histoire. Au cinéma, c'est la caméra qui filme une histoire. Il y a 1000 différences entre les deux arts, mais aussi des similarités. Au cinéma, le processus va être plus morcelé avec une grande quantité de décors, mais mon écriture théâtrale est déjà très cinématographique. Pour une histoire d'amour, j'essaye de creuser des pistes que je n'ai pas pu approfondir au théâtre. Utiliser plus de décors, suivre une chronologie un peu différente, garder l'essentiel en le racontant de façon légèrement différente. Au théâtre, par exemple, deux personnes qui discutent 5 minutes, ça va vite, alors qu'au cinéma, ça semble une longue scène de dialogue. Le rapport au dialogue n'est pas le même qu'en film, le cinéaste. Et oui, les chronologies sont pas du tout les mêmes. Hein. Au théâtre, c'est vraiment un seul bloc. Tandis que au cinéma, c'est vraiment, vraiment différent. Sur, par exemple, une scène, tu peux avoir le début du film sur une scène et tu dis tu vas jouer peut-être à la scène finale ou vers la fin du film, tu vois. C'est vrai que c'est un petit peu décousu, quoi. Donc c'est l'histoire d'un rapport, donc frère-sœur, donc entre Katia et Justine, il y a William, le frère de Katia. Ce personnage que Alexis Michalik joue est à la fois sympathique C'est lui qui pousse Katia à s'engager avec Justine. Et il est aussi antipathique, donc il a un abord froid, narquois et sûr de lui. Et le scénariste, metteur en scène et acteur explique. J'ai voulu montrer un rapport frère-sœur. On sait qu'entre un frère et une sœur, il peut y avoir des conflits, des engueulades, et que pourtant il y a de l'amour. Si William n'était pas gentil, on s'en ficherait. C'est vrai que William peut paraître arrogant, mais au final, il est toujours là pour elle. Ce film, c'est aussi l'histoire d'amour entre le frère et la sœur, et chacun d'eux sait qu'il y a toujours une personne sur laquelle ils peuvent compter. William et Katia ont un humour de résistance. Après avoir perdu leurs parents précocement face à la souffrance, ils ont toujours une vanne qui désamorce. Alors, Juliette Delacroix, Marcissa Sawyer, Pauline Bression et Léontine Doncieux, les actrices de la pièce, sont à nouveau de la partie dans le film. Alexis Michalik justifie ce choix. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas commun.
Alors oui, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Alors on a eu des films qui ont été adaptés de pièces de théâtre, hein. Tu lisais la preuve à l'instant, comme par exemple, rien à voir, mais avec l'équipe du Splendide, hein.
Je pensais à ça.
Toi aussi.
Le Père Noël est une ordure.
Oui, n'empêche que c'est pas évident de jouer une pièce, ouais. Et de le retranscrire en film. Il y a peut-être plus d'ampleur, de vision dans un film. On a peut-être plus de, on a un champ beaucoup plus large, je pense, au cinéma qu'au théâtre.
Ouais, alors le Père Noël est une ordure. Je sais pas si c'est un bon exemple. C'est pourquoi, parce que c'est quasiment un huis clos.
Ouais.
C'est un huis clos, donc j'imagine qu'ils ont dû trouver des scènes à l'extérieur pour. Enfin, je connais un peu mal, tu vois, toutes les scènes du Père Noël est une ordure, mais effectivement, ouais, c'est pas simple. Oui, de partir du pièce théâtrale et d'aller en faire un produit cinématographique, ça c'est oui, effectivement quoi. Donc où étais-je ? Donc comme il nous dit, donc on était à l'initiative du projet avec mes associés Benjamin Belcourt et Camille Toré à travers Acme, notre société. Je n'avais pas particulièrement besoin du cinéma et de ses grands noms. La pièce existait, elle avait très bien marché. Je me suis dit que ce serait beau de monter le film avec les actrices de la pièce et de faire perdurer cette aventure. Ça m'amusait plus que d'aller chercher 7 ou 8 millions d'euros et des stars de cinéma. Pour que ça passe, il fallait bien sûr que des partenaires nous accompagnent. Et finalement, donc le Pacte, France 2 et Canal nous ont suivis. À partir de là, on savait qu'on allait faire le film avec ce casting. Et oui, il faut des distributeurs derrière. C'est important. Parce que c'est eux quand même qui apportent
le
financement.
C'est les nerfs de la guerre, hein, comme on dit.
Donc voilà, pour vous éclairer un petit peu sur ce film-là.
Ah, si vous êtes curieux, allez voir donc ces acteurs, hein, parce que là aussi, on n'est pas sur des acteurs forcément...
Qui sont connus.
Qui sont connus, non. Donc ça mérite d'être curieux, hein, d'aller voir effectivement ce film cette semaine à la Brèche, une histoire d'amour, une histoire peut-être très compliquée certainement, et voilà, vous avez peut-être des clés à la fin de ce film.
Voilà, donc c'est le film d'Alexis Michalik, donc une histoire d'amour à découvrir à la Brèche cette semaine.
C'est le thé Pascal, un autre rendez-vous, le prix du passage. Alors ça c'est un film aussi français, sujet d'actualité, sujet fort, concernant les migrants et ces fameux passeurs de migrants.
Alors là dans le film effectivement c'est le passeur n'est pas un migrant, mais une Française.
Ah d'accord.
Oui. C'est quelqu'un qui craque pour l'argent et qui va faire passer, on va dire,
des
migrants de l'autre côté.
C'est inspiré d'une histoire vraie ou...
Alors, c'est pas forcément d'une histoire vraie, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. C'est quelqu'un qui est dans la précarité, qui va craquer. Mmh. Qui va craquer et qui va commettre, on va dire, l'impensable. Le prix du passage de Thierry Binisti. Donc, c'est un film franco-belge, hein, d'1h40. Hein, c'est un thriller, c'est un drame. Hein. Au niveau des actrices et des acteurs, on va retrouver Alice Issatz, Adam Bessalian de Brabant, Catherine Salé, Carole Franck et Samy Lechia. Alors c'est l'histoire de Natacha qui a 25 ans, qui est jeune mère célibataire et qui galère pour élever son fils Enzo qui a 8 ans. Walid, lui, migrant d'origine irakienne, attend de réunir assez d'argent pour payer son passage vers l'Angleterre. Aux abois, ils improvisent ensemble une filière artisanale de passage de clandestins. Alors il faut savoir une chose, c'est le prix du passage, le vrai prix, hein, du passage,
c'est énorme.
C'est carrément énorme.
C'est 3 000, 4 000.
On peut monter même au-dessus de 5 000. C'est dans les 5000 euros. C'est déjà des sols complètement folles.
Oui. Bien souvent, ceux qui quittent leur pays, en fait, ils vendent tout leur bien, leur maison, pour pouvoir passer. Quoi.
Oui, parce que déjà, ils payent des passeurs depuis le pays d'origine.
Ouais.
Oui. Il faut passer plein de pays.
Ben oui.
Donc ce sont des sommes folles qui sont dépensées pour un résultat qui peut être dramatique. On l'a vu encore il n'y a pas longtemps, avec des bateaux qui se crachent et des gens qui meurent noyés. Alors évidemment, il y a un décompte macabre qui est fait quand on les retrouve sur les côtes, mais il y en a combien de corps sont pas retrouvés? Combien de bateaux ont disparu, je veux dire, sans que personne s'en ait aperçu, quoi. C'est vraiment un drame, hein. Alors évidemment, on les retrouve du côté de Calais, où effectivement, on a des camps de migrants qui sont carrément immenses. Et même si de temps en temps, on va dire, l'État français, on va dire, démantèle les camps, ça n'arrange pas, ça n'arrange rien du tout. Donc, je veux dire, c'est les pousser un peu plus loin et c'est ne pas résoudre le problème.
Hein. À la source aussi. Hein.
Mais le problème, à mon avis, bien sûr, qu'il est à la source, oui, bien sûr, bien sûr. Quand on a des migrants, on va dire, d'Irak, oui, ils arrivent dans un pays qui a été complètement décomposé, qui a été complètement éclaté, qui est en désordre. Hein. Regarde la Libye aussi, la Libye était détruite. Que reste-t-il de la Libye? Ça, c'est à chaque fois. T'as des grosses opérations militaires comme ça, qui sont plus ou moins justifiées. Enfin, moi, j'ai quand même des gros doutes par rapport à ça. Mais derrière, il y a rien. Il y a pas de reconstruction.
Oui.
Regarde les Américains qui sont restés, je sais pas combien de temps en Irak. Est-ce qu'ils ont reconstruit le pays? Non, non, non. Est-ce qu'ils ont remonté les buildings? Est-ce qu'ils ont remonté, on va dire, les hôpitaux? Non, j'ai pas l'impression. Et regarde l'Afghanistan, c'est pareil. Ce sont des échecs. Hein. Alors évidemment, ce sont des victoires, parce que tout ceci quand même, surtout pour l'Irak, ce sont des guerres énergétiques, c'est comme ça que je les appelle, parce que si tu regardes un petit peu comment ça s'est passé en Irak, tu as les Américains qui ont pris une grosse partie de l'Irak, et toute la partie de Bassora, où effectivement il y a beaucoup de puits de pétrole, ça a été laissé aux Anglais, c'est les Anglais qui ont occupé cette partie-là. Donc voilà, c'est pas pour aller ramasser... on va dire, c'est vraiment pour exploiter le pétrole, c'est pour le prendre, ni plus ni moins, hein, je vois pas autre chose, hein, évidemment, sous couvert de lutte contre le terrorisme, on fait beaucoup, beaucoup de choses, hein. Donc, oui, évidemment que les problèmes viennent de là, hein. c'est que ce sont des problèmes, oui, qu'il faut traiter à la source. Quand va-t-on, poser la facture aux Américains, aux Anglo-Américains, et leur dire, bon, maintenant, c'est fini la récré, on va falloir maintenant s'occuper de ces pays-là, quoi, qui sont complètement démantelés. Hein. La Libye, c'est un très bon exemple. Hein. Tout le monde a fondu sur la Libye, même la France. Je me souviens encore. Hein. C'était un matin. J'ai dit que ça stressait personne. Un matin, je regarde la première couverture du Sud-Ouest et je lis que les avions français ont bombardé la Libye. Et je me suis dit, bon, là, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Quand tu vois le président français qui reçoit Kadhafi et après qui va vitrifier son pays, on se pose des questions quand même. Alors je sais que la Libye avec Kadhafi avait des velléités d'indépendance, hein. Il voulait instaurer le dinar or, il voulait lancer son propre satellite pour concurrencer les satellites français en télécommunications. C'est un pays quand même s'il y avait des dérives, c'était des pays qui étaient riches et développés. Et puis la Libye, c'était un des pays les plus développés d'Afrique. Pourquoi le vitrifier? Pour arriver à quoi? Et c'est vrai que ça a été pointé du doigt par les Russes et bien d'autres pays, hein, en disant, mais voilà ce que vous avez fait, vous avez laissé le pays en ruine. Alors évidemment, la Russie, maintenant, elle n'a pas trop de leçons à donner, parce que en matière de destruction, ils sont quand même assez forts. Mais un jour, il va falloir se pencher là-dessus, sur ces problèmes-là. Oui, effectivement, il y a des migrants, oui, il y en a de plus en plus, oui.
Alors et justement, les migrants, justement, choisissent l'Europe. Plus particulièrement.
Bien sûr.
Parce que c'est plus simple pour eux de venir en Europe qu'ailleurs.
Oui, parce que les filières sont organisées comme ça, filent vers l'Europe, évidemment vers l'Allemagne, la Turquie, énormément aussi, la France. Mais c'est vrai que oui, c'est difficile de passer aux États-Unis, parce que là, par contre, tout ce qui est insulaire, évidemment, c'est nettement plus compliqué. Alors, évidemment, c'est pour ça que tout le monde s'agglutine à Calais, parce que évidemment, l'objectif, c'est l'Angleterre. Hein. C'est l'Angleterre. Et là, par contre, il y a des contrôles de plus en plus sévères. Alors,
ce film...
Le prix du passage. Donc, à l'origine du projet, il y a l'expérience que la scénariste, donc Sophie Guédon, a eue d'abord à Paris, puis dans le nord de la France, près de Calais. Elle y a passé beaucoup de temps en travaillant dans des associations et en nouant des liens avec les migrants qu'elle a rencontrés. Et comme elle nous dit, son propre vécu sur place nous a été précieux à la fois pour l'écriture et la fabrication du film, même s'il a fallu réactualiser le récit après le démantèlement de la jungle, comme il l'appelait évidemment.
Et oui.
L'histoire s'est développée autour des personnages de Natacha et Walid, qui nous permettaient en quelque sorte de parler de deux mondes totalement différents, de deux univers parallèles qui se rencontrent, voire se percutent grâce à la fiction, explique le réalisateur. Donc, au niveau du cadre, donc, en raison du sujet du film, cela n'a pas été si simple de trouver des lieux de tournage. Mais au final, l'équipe a été plutôt bien accueillie dans des villes comme Boulogne et Dunkerque, révèle le réalisateur. Natacha habite donc une ville qui pourrait être Calais, mais concrètement, la barre d'immeuble dans laquelle elle vit est filmée à Boulogne-sur-Mer. C'est aussi à Boulogne qu'on a trouvé notre décor de passage de douane. À Boulogne, des guérites désaffectées subsistaient datant du temps où des overcraft faisaient la liaison avec l'Angleterre. Et oui, c'est ces bateaux... qui était soulevé par l'air, tu sais.
Ah oui, je me rappelle.
Tu te souviens de ça?
Exactement, ouais.
Les overcraft n'ont pas duré. Ce checkpoint n'a quasiment jamais été utilisé. On l'a remis en service et pris pour décor. Alors, le refus de l'histoire d'amour, donc Thierry Binisti tenait à éviter le cliché de la relation amoureuse entre les personnages de Natacha et Walid. Leur relation repose avant tout sur un contrat. Il y a bien une attirance qui s'installe entre eux au fur et à mesure, mais il n'y a pas de concrétisation, car cela aurait abîmé cette histoire. Cela l'aurait limité si le but était de s'embrasser à la fin. L'idée était de voir comment deux êtres totalement différents se rencontrent et se trouvent des points communs, parce qu'ils sont dans la même situation. Donc, réaliser le prix du passage est une forme d'engagement pour Thierry Binisti, en permettant par le biais de la fiction d'abolir la distance entre le spectateur et le monde qui l'entoure. Et comme il nous dit, le cinéma nous ouvre des fenêtres sur des situations bizarrement insoupçonnées parce que rarement portées par des êtres de chair et de sang. Il peut ainsi contribuer à une prise de conscience et il en est grand temps, je dirais.
C'est ça, mais je crois que c'est une première, hein. On n'a jamais eu de film justement sur ces passeurs, sur ces marchands de rêves en fait, hein, qui au cinéma, récemment...
Ça c'est une bonne question.
Je ne pense pas.
C'est une très très bonne question à laquelle je ne saurais répondre. Alors, j'ai pas de film qui me vient à l'esprit pour le moment, quoi. Mais c'est vrai que c'est un sujet d'actualité et qui vient à point nommé quand même, parce que...
Absolument.
Voilà, et donc voilà quoi. J'espère qu'un jour ça s'améliorera de ce côté-là. On croise les doigts.
Absolument. Pense à tous ces personnes qui tentent en fait l'aventure, le rêve, hein, le rêve de partir et de vivre dans un monde meilleur, on va dire.
Voilà, il y a ça. Mais il y a aussi surtout le fait aussi qu'ils risquent leur vie.
Exactement, ouais.
Ils risquent leur vie. Déjà rien qu'en passant le Sahara, ils se retrouvent en Libye. Là, ils sont la moitié en mode esclavage, c'est-à-dire qu'on les capturait, on les faisait travailler pour payer le prix du passage. Donc à chaque fois, ils étaient mobilisés pendant un an, deux ans pour y réunir la somme. Une fois que c'était réuni, on les faisait passer dans un autre pays où c'était encore plus compliqué. C'est vraiment la croix et la bannière, et surtout très dangereux.
Ouais.
Que ce soit sur terre et encore plus sur mer, hein, surtout enfin passer sur un canot pneumatique la Méditerranée par une mer agitée. Franchement, faut avoir du courage.
Eh bien, on va poursuivre avec cette semaine parmi les autres sélections de La Brèche. Eh bien, c'est un rendez-vous plus léger pour l'honneur qu'on va pouvoir découvrir.
Oui,
alors c'est on va dire une suite peut-être, non, c'est par rapport
à... c'est pas une suite.
Non, pas du tout.
Non, c'est pas la suite du Vista Joe.
Ouais, non, d'accord.
Donc on va parler du film, le dernier film de Philippe Guillard, hein, Pour l'honneur, un film français d'une heure 37. Là, c'est une comédie.
De rugby, là, cette fois-ci.
On va parler de rugby. Alors évidemment, Philippe Guillard a réalisé en 2010 Le Fils à Joe avec Gérard Lanvin et Vincent Moscato. En 2019, Papy Sitter. Je l'avais présenté, celui-ci.
Ah oui, je...
Oui, oui. Ouais. Avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal.
Ah ouais, ok.
Et en 2020, toujours un film avec Gérard Lanvin et Artus. J'adore ce que vous faites.
Ah oui.
Que j'ai présenté aussi. Hein.
Exact, exact. Ouais.
Alors au niveau des acteurs, on va retrouver Olivier Marchal, Olivia Bonamy. Ça fait longtemps.
Eh oui, ça
l'a
fait plaisir
vu
de la retrouver.
Sur les écrans, ouais. Oui, oui. Mathieu Madénian, Solène Hébert, Philippe Duquesne, Dédé Chien.
Oui.
Tu le vois sur l'affiche.
Ouais, je vois, ouais, ouais, ça fait.
Et Geoffroy Thiébaut. Alors, je sais pas si c'est eux qui ont inventé le nom du village, mais alors ça s'appelle Troquepont sur Tescou. Et Tourtour les Bains. Tu vois le truc?
Ouais, j'imagine.
Deux villages du sud de la France se livrent une impitoyable guerre de clochers, symbolisée par un solide derby entre deux villes, entre deux clubs de rugby. Alors que Troc-Pont a incontestablement pris l'ascendant, l'arrivée inattendue de demandeurs d'asile va changer la donne. Ah lui, là aussi, on parle de demandeurs d'asile. Va changer la donne. Tourtour pourra-t-elle ainsi battre son ennemi ? Juré, l'année du derby le plus important de son histoire, celle du centenaire, point d'interrogation. Et c'est vrai qu'aussi, Philippe Guillard soulève un sujet d'actualité qui est l'insertion, on va dire, de demandeurs d'asile,
oui,
dans les campagnes. C'est un sujet d'actualité, ça aussi.
Oui. Hein.
Et c'était une idée aussi qui est soulevée, c'est-à-dire redynamiser les villages. Voilà. Donc, évidemment, Philippe Guillard est passionné de rugby, il en a fait lui-même. C'était un sportif au début, hein, Philippe Guillard. Hein. Il arrive sur le cinéma, on va dire, sur le tard, hein. On va en reparler tout à l'heure, hein, mais c'était qu'il était, rugbyman. Et surtout, il a commencé ses armes dans le cinéma en étant scénariste. Hein. Donc, ancien rugbyman, Philippe Guillard avait déjà fait du rugby. Le cœur de son premier long métrage, Le Fils à Joe. Avec pour l'honneur, il retrouve ce sport qu'il aime tant, même si beaucoup de gens ont tenté de l'en dissuader, car selon eux, la popularité du rugby est relativement faible. Il explique, en fait, le rugby n'est qu'un prétexte à raconter des histoires humaines et universelles, comme la danse, la musique, l'art, etc. Pourquoi moi, en tant qu'ancien rugbyman, devrais-je me priver de scénarios autour d'un sport qui me tient tant à cœur et que je connais comme ma poche? Et oui, bien sûr, pourquoi s'en priver? Et puis, quand on dit que le rugby a une popularité relativement faible, moi je dis oui et non.
Ah non.
Oui et non, parce que franchement, il y a eu les derniers matchs là.
Oui, c'est sûr, c'est suivi.
Franchement, de l'équipe de France de rugby,
ouais,
qui était suivie.
Ouais.
Mais moi je l'ai regardé.
Ouais.
Et oui. Donc, non, je pense que ça. Avant, oui, effectivement, les gens n'étaient pas trop intéressés, c'était moins médiatisé. Et maintenant, si, je pense que les gens le suivent. Hein. En tout cas, les grosses compétitions. Alors, autour de la genèse du film, donc, outre l'envie pour Philippe Guillard de renouer avec le rugby, Pour l'honneur est né de la lecture d'un article trouvé par le réalisateur et scénariste Éric Fourniol, lui aussi ancien joueur de rugby. L'article revenait sur des migrants demandeurs d'asile qui s'étaient installés dans un petit village en Italie, contre l'avis de tous ses habitants, et qui avaient fini par s'y intégrer grâce à l'équipe de foot. Monsieur Guillard déclare, au-delà des victoires sur le terrain, cela a surtout eu le mérite de déboucher sur des victoires de cœur sur les préjugés. J'ai trouvé cette histoire magnifique et je me suis dit qu'en remplaçant le foot par le rugby, elle ferait un beau scénario. Éric a accepté de m'en faire cadeau et on l'a écrit ensemble. Donc le sport comme outil d'intégration, donc le sport est fantastique car ce sont les mêmes règles pour tout le monde et partout dans le monde. Le hors-jeu, le pénalty, le coup franc, les dimensions d'un terrain, des poteaux, la hauteur d'un panier de basket ne sont pas décidées en fonction d'une culture, d'une religion ou d'une couleur de peau. Les joueurs d'une même équipe ont un but commun, gagner un match, et pour cela, ils auront un langage commun, quelles que soient les origines, souligne Philippe Guillard. Et oui, le sport est un langage universel. Les bons sentiments, donc le réalisateur assume avoir fait un film plein de bons sentiments. Et comme il nous dit, certains prétendent qu'on ne peut pas faire un bon film avec de bons sentiments. Moi je prétends que le contraire. J'écris avec mon cœur et mon instinct. Je ne calcule rien du tout. Et si on me trouve trop fleur bleue, tant pis, j'assume. Avec le co-scénariste, donc Éric Fourniol, il ne voulait pas politiser le film, mais en faire une histoire humaine sur un monde comédie, sans violence, mais sans angélisme particulier non plus. Donc le casting du film mêle des acteurs et des anciens joueurs de rugby. Les scènes de match et les entraînements étaient stressants pour le réalisateur qui craignait qu'il y ait des blessés.
Oui.
Comme il nous dit, c'est costaud le rugby.
Eh oui, ça va au contact. Hein.
C'est souvent quand on fait semblant de se blesser ou qu'on s'engage trop qu'il arrive quelque chose. Fallait-il doser entre les deux pour être le plus crédible possible tout en restant dans une zone de sécurité? Il l'a demandé à l'un des kinés de l'équipe de France, Christophe Foucault, d'être présent sur le tournage. Et on sait jamais, hein. Et donc, il y a Francis Cabrel qui apporte sa patte au film. Oui. Donc, ami du réalisateur et grand fan de rugby.
C'est lui qui signe la chanson du film.
Francis Cabrel a écrit, interprété la chanson du générique de fin. Mmh. Philippe Guillard se souvient, il y a 2 ans, je suis allé chez lui pour lui demander s'il pouvait m'écrire une chanson pour le film. Il me promit d'y réfléchir. Le temps passe, le tournage approche. Je pense qu'il m'a oublié et je n'ose pas le rappeler. Et un beau jour, je reçois un coup de fil. Francis m'annonce qu'il m'envoie quelque chose. Et là, au miracle, oui, Francis Cabrel.
Il n'avait pas oublié.
Ah bien, non.
Il avait travaillé dessus, sur le sujet. Ouais.
Après avoir vu plein d'interviews de Francis Cabrel, c'est pas du genre à dire je t'ai oublié, j'ai rien fait, ou alors je suis un gros feignant, tout ça. Non, c'est quelqu'un qui est studieux, qui est sérieux, et puis qui est surtout très sympathique. Et tu sais que juste pour venir sur Francis Cabrel, pendant le Covid, on va dire régulièrement.
Ah oui, il faisait des
sur YouTube, il reprenait ses titres en guitare sèche depuis chez lui, et c'était d'enfer.
Et il était suivi.
Une grande leçon de guitare. Alors évidemment, moi qui suis un petit peu guitariste, je peux te dire que j'ai adoré. J'ai adoré, et à chaque fois, je lui envoie un petit message me disant merci.
Ouais.
Merci. C'est vraiment super ce que tu fais, quoi. Parce que c'est et c'était chouette parce que c'était ces chansons, elles étaient remises un petit peu à nu parce que tu n'avais que la partie guitare, tu vois, tu n'avais plus, on va dire, tout l'accompagnement, la basse, la batterie, tout ça. Et c'était vraiment, vraiment chouette. On revenait vraiment à l'essence de son morceau parce que c'est comme ça qu'il les écrit au début, il n'y a que la guitare. Et voilà. Merci, Francis. Voilà,
si tu nous écoutes.
Si tu nous écoutes, ouais, merci. C'était vraiment,
voir,
vraiment chouette.
On serait très heureux de discuter avec toi.
Tous les gens, franchement, qui étaient coincés chez eux, c'était vraiment, vraiment chouette, quoi. Donc, il y a aussi Patrick Sébastien dans le film.
Ah oui.
Tu vois, comme quoi, il y a des surprises. Hein. Donc, Patrick Sébastien fit une apparition dans le film. L'animateur, donc, a pratiqué le rugby dans sa jeunesse, au CA de Brive.
Et oui,
avant d'en être le président des années plus tard. Sous sa présidence, le club remporte même la Coupe d'Europe des clubs en 97. Et Philippe Guillard voulait remercier cet ami de longue date qui l'a aidé à ses débuts. Et comme il nous dit, il a toujours suivi mon parcours depuis mon premier roman, il y a 30 ans. Il m'a même invité à en parler à la télé alors que je n'étais personne. Il est généreux. Il a toujours cherché à dénicher et pousser des jeunes artistes. Comme il remettait aussi sur scène les anciens, les oubliés, c'est vrai.
Oui.
Et c'est vrai. Ça, c'est la générosité de Patrick Sébastien. Et c'est vrai que à chaque fois, tout le monde le prend. Et après, je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps dans une émission, il disait « Ouais, tout le monde trouve que je suis le bof, le représentant des bofs, tout ça. » Et non, il n'y a pas que ça. C'est vrai que c'est un peu trop jugé le personnage. Il n'y a pas que ça, quoi. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'aller voir Pour l'honneur.
Et vous allez passer un excellent moment, j'en suis sûr, ouais. Avec une bande de copains et de comédiens assez sympathiques. Okay. Eh bien Pascal, on va faire un petit détour par la bande-annonce et on se retrouve juste après.
Depuis près d'un siècle, deux petits villages du sud de la France se livrent une impitoyable guerre de clochers.
Ok, ça va, j'ai compris.
Il a sorti le maillot du grand-père. Sent pas bon, les gars.
Et là, je dis stop ! On met une branlée à ces gros cons de trepons ! Dans 3 mois, au match retour !
Ah ! Alors, les trompettes, on est venu prendre une branlée ?
Non, Dédé, t'es taillé comme un criquet. Pourquoi tu t'en prends toujours au gros, putain ?
Entre Troquepot la bourgeoise et Tourtour la ritale, tous les coups sont permis. Avant qu'une arrivée ne vienne bouleverser la vie de ces deux villages.
Arrêtez de les appeler des immigrés. Ce sont des demandeurs d'asile.
Il est hors de question que ces gens-là débarquent ici.
On peut pas laisser faire Saint-Marco.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?
On est vraiment très heureux de vous accueillir. Hein, et vous êtes ici, chez vous.
Vous êtes double championne du monde. Vous avez Mbappé, vous avez Pogba. Il n'y a pas de terrain de football.
Non, il n'y a que des terrains de rugby. Ah bah ça, c'est ton tour.
Il y a un problème, Moustache.
Marco, vite !
Marco, moi je veux jouer pilier comme gros loulou.
Quand tu vas vers l'avant, il faut toujours rester derrière. À une condition, c'est que la passe soit faite à la main. Parce que si elle est faite au pied, elle peut être en avant. Tu comprends ?
Jette un œil.
Au départ des migrants.
Les migrants que t'essaies de virer au nom de tes idées à la con, je te garantis qu'ils vont te mettre la misère le jour du derby.
Va falloir y aller au Massif dimanche soir. On sait même pas s'il est courageux.
Vous voyez, le petit, il a été emprisonné et torturé pendant 2 ans. Salif l'a sauvé. Et comme le petit n'avait pas de famille, il en a fait son petit frère. C'est ça que j'appelle le courage, moi.
Gagné ou perdu ? Pour moi, la vraie victoire, elle est là, devant nos yeux.
Maintenant, tu passes ton bras gauche entre les cuisses de Jawan et tu agrippes son short juste au-dessus des parties génitales.
Je suis désolé. Ça, je peux pas faire, là.
Voilà, pour l'honneur, bien évidemment, Vous allez passer un excellent moment avec un Olivier Marchal différent, hein, puisqu'on a l'habitude de le retrouver dans des films plutôt policiers.
Et puisque à la réalisation.
À la réalisation, surtout avec sa femme Olivia Marchal, qui souvent l'accompagne, hein, dans ses films. Donc en fait, Olivier Marchal, un comédien sympa et qu'on aurait envie de découvrir autrement dans ce film-là.
Et à chaque fois, ça sent bon le sud de la France.
Avec un bel accent, en tout cas.
Toujours.
Voilà. On enchaîne avec un autre rendez-vous différent, avec une production portugaise, je crois, Pascal.
Oui, on va partir au Portugal, qui est un très beau pays, que j'aime beaucoup.
Que j'ai c'est pas loin de chez nous.
C'est vrai que pour ceux qui veulent se dépayser.
Ça reste en Europe. Hein.
Aller au Portugal, ça reste
c'est pas loin
Europe,
de l'Espagne.
Il y a un bout de route, mais franchement, ce qui caractérise le Portugal avant tout, c'est évidemment son architecture, sa culture, tout ça, sa gastronomie, évidemment, qui est renommée. C'est la gentillesse. La gentillesse des gens. C'est ce qui vraiment s'y surprend au Portugal et j'ai été émerveillé par rapport à ça. Alors, faut se perdre un petit peu dans les petits villages, hein. Mais on s'y sent bien. C'est un pays où on se sent vachement bien. C'est moins agité que l'Espagne. Donc voilà. Donc je vous recommande vraiment, si vous avez un petit peu de temps à passer en vacances, passez la frontière portugaise et allez à la rencontre de ces gens qui sont absolument merveilleux. Alma Viva. Un film franco-portugais d'une heure 28. C'est un drame. De Christelle Alves Meira. Alors on va retrouver Lua Michel, Anna Pradao, Jacqueline Corrado, Esther Catalao, Duarte Pina, Arthur Brigas, Catherine Salé et Martha Quinn. Alors comme chaque été, la petite Salomé retrouve le village familial niché au creux des montagnes portugaises le temps des vacances. Tandis que celle-ci commence dans l'insouciance, sa grand-mère adorée meurt subitement. Alors que les adultes se déchirent au sujet des obsèques, Salomé est tentée par l'esprit de celle que l'on considérait comme une sorcière. Alors comment est né ce film ? Il est né déjà d'une histoire vraie.
Ah.
Christelle Alves Meira s'est inspirée du sentiment d'injustice qu'elle a ressenti à la mort de sa grand-mère maternelle. Elle avait alors une vingtaine d'années et a vu ses oncles et ses tantes se déchirer autour de sa dépouille pour une vulgaire question d'argent. Je te raconte même pas la scène, hein.
Ah oui.
Elle est restée sans sépulture pendant 2 ans. Cette brutalité, alors comme elle nous dit, hein, cette brutalité dans les rapports humains m'a frappé au point de vouloir en faire un film. J'avais besoin de comprendre ce qui pouvait mener à ça. De cette histoire personnelle, il reste seulement une scène dans le film. Parce que très vite, mon attention s'est focalisée sur la relation d'une grand-mère avec sa petite fille, raconte la réalisatrice. Donc évidemment, on va parler de la sorcellerie. Donc si on observe un regain d'intérêt pour la figure de la sorcière, pour les rituels, la magie et les superstitions, Christelle Alves Meira souligne qu'Alma Viva n'est pas un film de genre. Et comme elle nous dit, c'est un film de terrain, presque anthropologique, qui s'inspire de pratiques réelles de la sorcellerie que j'ai côtoyées de près. J'ai passé mon enfance à entendre des histoires de mauvais sorts et de malédictions. J'ai grandi avec l'occulte, avec des femmes qui sont de grandes mystiques, qui croient au pouvoir des plantes et aux esprits. On pratique réellement la sorcellerie dans ces montagnes du nord-est du Portugal. Ce sont des rituels qui se font en cachette et c'est tabou d'en parler. Et oui, ça c'est un univers très particulier. Alors comment que j'ai côtoyé un peu, mais en France aussi. Hein. Alors le village, oui, le village. Traços Montes.
Portugais,
oui. Alma Viva a été tournée dans le village de la grand-mère maternelle de la réalisatrice, située dans la région du Traços Montes au Portugal. Christelle Alves Meira y avait déjà filmé les courts, donc le métrage donc Sol Branco et Campo de Viboras. Donc, et comme elle le dit, j'entretiens une relation très intime avec ces paysages chargés d'une pensée de notre temps, mais qui nous tient de nos ancêtres. C'est avec ce sentiment que je les filme. Il y a de ces villages dans la façon d'être au monde de ces montagnards dont je fais partie. Quelque chose qui nous vient de très loin. La modernité est là, bien entendu, mais les traditions et les coutumes continuent de vivre et de se transmettre. Alors ce que j'ai bien aimé moi dans la présentation de son film et surtout dans sa composition, c'est que tous les acteurs sont non professionnels.
Ah, c'est bien ça.
Eh oui, tous les acteurs qui jouent dans Alma Viva sont originaires du village où a été tourné le film et de ses environs. Ce sont des non professionnels en grande majorité que la réalisatrice connaît très bien. Et comme elle nous dit, je les ai choisis parce qu'ils sont des sanguins au grand cœur qu'il ne faut pas trop embêter. Ce franc-parler, cette excentricité, cette brutalité qui émane dans les rapports entre les personnages sont propres à l'image que je me fais de cette région. Donc Salomé est incarnée par la fille de la réalisatrice. il ne s'agissait pas d'un choix délibéré de la part de cette dernière. Elle a passé beaucoup de temps à voir d'autres petites filles en casting, mais Loua Michel, sa fille, a démontré un désir de jouer. Et elle nous dit, donc, et ne pas lui laisser sa chance de passer des essais pour mon film n'aurait pas été juste. Alors j'ai accepté de la filmer. C'était une dure charge que de prendre cette décision, c'est une grande responsabilité. Mais Loua s'est imposée, elle s'est emparée du rôle de façon tout à fait naturelle. C'est alors devenu une évidence. Le personnage qui avait à l'origine 11 ans a été rajeuni pour coller à l'âge de son interprète, 9 ans, au moment du tournage. Quelle belle aventure.
Ouais.
Quel beau projet. Et moi j'adore des gens qui vont dans avec leur caméra, alors évidemment ils connaissent le lieu. Hein,
oui, c'est plus simple.
Pour aller faire tourner les acteurs du cru.
Ouais.
Les gens du village. Alors, on l'a vu dans un autre film.
Oui, c'est ce qu'on
film Corse.
Exactement.
Qui était tourné en Corse.
Ouais, je m'en rappelle. Ouais.
Je me souviens plus trop du titre. Mais ouais. Effectivement, pareil, quelqu'un qui était du pays est venu filmer sa comédie donc dans un petit village corse en prenant les acteurs, les habitants, en les faisant jouer dans le film. Je trouve que c'est vraiment une belle expérience humaine.
Et on se rapproche plus du réel en fait, hein, lorsqu'on a des gens du cru comme ça
t'as une autre ambiance. Puis c'est vrai que c'est le naturel ressurgit, faut dire assez vite. Hein. Ils n'ont pas la retenue du texte ou je ne sais, ou de consignes qu'on leur donne. On leur dit simplement d'être peut-être eux-mêmes.
Ouais.
Et ça, je trouve ça vraiment vraiment chouette, quoi.
Très intéressant en tout cas l'angle qui est pris dans ce film Alma Viva, qui sera joué en version sous-titrée originale même, je crois.
Alors, voyons voir. Alma Viva, bien sûr.
Ah,
bien sûr, il sera joué en version originale sous-titrée.
Très bien.
Voilà, c'est ce qui ne me perd pas de charme.
Eh bien, c'est noté pour ce rendez-vous, Pascal.
Voilà, donc Alma Viva à découvrir à la Brèche cette semaine.
On enchaîne avec un autre rendez-vous, c'est l'Empire du silence. Là aussi, un rendez-vous sympa que vous allez pouvoir découvrir à la Brèche. Alors, c'est un documentaire, je crois, qui va nous emmener au Congo.
Alors, c'est un documentaire. Hein.
Oui, c'est ça.
Un documentaire assez grave, un belge d'1h50 de Thierry Michel. Oui, effectivement, on va plonger dans l'univers chaotique et instable de ce pays, ce grand pays d'Afrique qui était autrefois le Zaïre, hein, qui est redevenu le Congo, hein.
Ouais.
et dans lequel on va dire la situation politique est vraiment et humanitaire est difficile. Donc depuis 25 ans, donc la République démocratique du Congo est déchirée par une guerre largement ignorée des médias et de la communauté internationale. Les victimes se comptent par centaines de milliers, voire par millions. Les auteurs de ces crimes sont innombrables de mouvements rebelles, donc, mais aussi des armes, celles du Congo et des pays voisins. Des armées, pardon. Tous semblent pris dans un vertige de tuerie pour le pouvoir, pour l'argent, pour s'accaparer les richesses du Congo en toute impunité, dans l'indifférence générale. Parcourons le Congo, caméra au point, depuis 30 ans, Thierry Michel a été témoin des combats, des souffrances, mais aussi des espoirs du peuple congolais. Relayant le plaidoyer du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, et dans la continuité de son précédent film, donc L'homme qui répare les femmes, il retrace les enchaînements de cette impitoyable violence qui ravage ce pays depuis un quart de siècle, ce qui est interminable.
Ouais.
Alors, faut savoir une chose, c'est que le jeudi 4 mai à 20h, donc, c'est une séance qui sera en partenariat donc, avec la CAT Collectif Foyen, la CIMAD, et Terre Solidaire en Pays Foyen, donc, ou surtout Amnesty International. Il y aura un débat avec le père Claude Akili, qui revient de la région du Kivu.
Ah, d'accord, ouais.
Donc,
un témoignage.
En RDC, oui, ouais. En République démocratique du Congo. Alors, l'Empire du silence s'inscrit dans la continuité du travail de Thierry Michel, qui depuis plus de 25 ans suit l'histoire du Congo Zaïre. J'ai abordé, donc, comme il nous dit, dans mes 11 films, la plupart des grandes thématiques de ce pays continent. Histoire avec le film Mobutu, roi du Zaïre, la présence expatriée post-coloniale avec les derniers colons, le pouvoir et les soubresauts de fin de dictature avec le documentaire Le Cycle du Serpent, la politique affairiste mêlant business, foot et médias avec le trait berlusconien, l'irrésistible ascension de Moïse Katumbi, la géographie avec Congo River, l'économie au cœur de la mondialisation avec Katanga Business, la justice avec l'affaire Chebeya, un crime d'État, le viol comme arme de guerre, avec l'homme qui répare les femmes. Oui, c'est quelqu'un qui tourne énormément au Congo,
ouais.
Et qui connaît très très bien son sujet. Après avoir réalisé L'homme qui répare les femmes avec Claudette Brickman, Thierry Michel a pris conscience de l'ampleur de la tragédie vécue par le Congo Zaïre depuis la fin du régime dictatorial du président Mobutu, qui avait imposé, donc, comme il nous dit, durant plus de trois décennies, une paix civile basée sur une répression sans faille et une corruption, prédation généralisée des richesses du pays. Cette prise de conscience a été accompagnée par la lecture d'un rapport réalisé par les experts des Nations Unies appelé Mapping Report, qui répertorie 617 cas graves de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre 1994 et 2004. Ces crimes perpétrés au Congo Zaïre sont peu connus ou médiatisés et n'ont fait l'objet d'aucune suite judiciaire, ni en RDC, ni devant une cour africaine ou une juridiction internationale. Donc, et comme il nous dit le réalisateur, donc, je ne pouvais pas terminer mon cycle de 11 films sur ce pays sans avoir réalisé ce documentaire qui donnera les clés de compréhension de la tragédie toujours d'actualité dans laquelle s'enfonce ce grand pays africain, l'un des plus riches du monde par ses ressources agricoles, forestières, énergétiques et bien sûr par l'importance stratégique de ses réserves en minerais précieux indispensables à la prospérité des pays occidentaux et asiatiques et au développement de technologies de pointe, affirme Thierry Michel. Oui, c'est un pays qui est pillé, saccagé,
oui.
Et dont la situation humanitaire est catastrophique. Donc voilà, donc c'est très bien qu'il nous ouvre une fenêtre un petit peu sur ce qui se passe là-bas, parce que la République démocratique du Congo, on n'entend jamais parler.
Oui, c'est ça. C'est l'impression que c'est un pays qu'on laisse
oublié.
Oublié, ouais, tout
oublié,
à fait.
Oublié, oui, un pays qui s'embrase régulièrement.
Ça intéresse personne.
Non, ça intéresse personne. Et puis peut-être parce que personne ne veut rien voir aussi.
Ouais.
Peut-être des gens, enfin, certains pays sont on va dire complices, on va dire du saccage des richesses au détriment évidemment des populations, quoi. Donc je rappelle un petit peu le débat qui aura lieu donc le jeudi 4 mai à 20h en présence donc de monsieur Claude Akili. Donc c'est un religieux, c'est le père Claude Akili qu'on accueillera, hein, qu'on recevra à la brèche.
Très intéressant. En tout cas pour cette rencontre et pour échanger justement sur...
Exactement, vous pouvez lui poser toutes les questions possibles et imaginables. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît le terrain et qui a une grande expérience.
Eh bien, c'est noté, Pascal, pour ce rendez-vous très intéressant à la brèche cette semaine, L'Empire du silence, un documentaire de Thierry Michel, tu l'as dit. On enchaîne avec le dernier rendez-vous de la semaine, qui n'est pas que le dernier rendez-vous de la semaine. Ça s'appelle Burning Days. On va sur une production turque.
Alors tu vas voir tous les pays qui ont participé à ce film. Alors le film Demin Alper, hein, c'est Turquie, France, Allemagne, Pays-Bas, Grèce, Croatie.
Ouais.
Un film de 2h08, un drame, un thriller. Hein. Alors au niveau des acteurs, on va retrouver Selahattin Pazali, Ekin Kök, Erol Babaoğlu, c'est turc, Erdem Senokak, ouais. Céline Yaninci, Sinan Demirer, Atis Aslan et Ali Sekimer Alisi. Alors, Emer, un jeune procureur déterminé et inflexible, vient d'être nommé dans une petite ville reculée de Turquie. À peine arrivé, il se heurte aux notables locaux bien décidés à défendre leurs privilèges par tous les moyens, même les plus extrêmes. Alors, au niveau de la naissance, la genèse du film, donc l'idée initiale que Emin Alper avait en tête était de décrire un idéaliste solitaire luttant contre l'élite corrompue d'une ville. L'idée est inspirée au réalisateur par les récentes expériences politiques de son pays. Il explique. On peut toujours avoir le courage et l'envie de se battre contre des politiciens corrompus et autoritaires. Mais quand on voit que ces gens sont populaires et qu'ils sont réélus par le peuple encore et encore, on se sent désespéré et isolé. Et puis après un certain temps, on sent que l'on doit surmonter sa dépression et recommencer à se battre jusqu'au prochain échec. Ces dernières années, nous avons été pris dans un cercle vicieux de ce genre. Non seulement mon pays, mais plusieurs autres connaissent des expériences similaires. J'ai donc décidé d'écrire une histoire pour dépeindre ce cas presque universel et transmettre la solitude des gens qui sont consternés par la montée des populismes autoritaires. Donc ça se passe à Yeniklar, hein, où se déroule l'action du film. Et c'est une ville entièrement fictive, mais c'est un microcosme de la Turquie. Il fallait créer un microcosme comme Ibsen l'a fait dans un ennemi du peuple. Cette pièce écrite, qu'il a près d'un siècle et demi, a été l'une de mes grandes inspirations. Alors, Burning Days emprunte des éléments au thriller, ce qui n'était pas prévu lorsque le projet en était à ses débuts. Après avoir esquissé le cadre, c'est-à-dire la pénurie d'eau, Emin Alper a dû créer des éléments supplémentaires pour complexifier l'intrigue et approfondir le caractère du procureur. Et le metteur en scène précise. Et là, j'ai compris que l'histoire devait ressembler à un polar. Je suis toujours étonné de voir à quel point les gens ignorent facilement les actes criminels des leaders populistes qu'ils aiment tant. Avec une forme empruntée au thriller, je souligne le fait que la renommée des populistes n'est jamais affectée par leurs actes délictueux et j'offrais à mon récit des éléments de suspense. Ah oui, évidemment, ça parle de la Punir Rideau, la guerre de l'eau.
Ouais.
La guerre de l'eau, on est en plein dedans.
Hein. Oui, on en parlait la dernière fois ici, hors antenne, mais c'est vrai que l'eau, c'est précieux. Aujourd'hui, on se rend compte, même en France,
Absolument.
Il y a des régions...
Oui, mais elle est mondiale.
Ouais.
Et c'est devenu une pénurie mondiale.
Les réserves d'eau sont au plus bas.
La pénurie d'eau en Turquie devient de plus en plus problématique. Et les dolines, ces formes d'érosion brutale et circulaire, constituent un vrai problème en Anatolie centrale. Oui. Tu vois ce que c'est ? Alors, ce sont d'immenses cratères qui se creusent dans le sol. Et je ne sais pas combien ils descendent. C'est abyssal.
Ah ouais.
La terre s'effondre. T'as jamais vu ça?
Ah si, j'ai vu. C'est pas des crevasses, mais...
c'est pas une crevasse parce que c'est entièrement circulaire.
Ah ouais.
Et tu as un trou, mais c'est gros.
Ça peut être
aussi gros qu'un plusieurs terrains de foot.
Ouais.
Qui sont en plein milieu des terres agricoles. Ils ont même dû évacuer certaines fermes parce que ça arrivait vraiment, ça frôlait les fermes. Mm-hmm. Donc tu retrouves des propriétaires terriens en fait, qui ont plus de terre en fait, ils ont un trou qui est totalement inexploitable.
Ouais, c'est...
Et c'est un phénomène. Qui je trouve qui commence à se mondialiser, c'est assez inquiétant, je trouve. Et pour l'instant, on les étudie. On en a en Russie, c'est très grand.
Ouais.
En Russie, en Turquie, ils viennent d'apparaître ces dernières années. Les prochains, je sais pas
qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a au fond là ?
Qu'est-ce qu'il y a au fond ? Je sais pas. Je pense qu'on a tout à découvrir, tout ce qu'il y a au fond, mais la terre s'en va, la terre s'enfonce. Donc après la disparition des nappes phréatiques, le nombre de dolines augmente rapidement. Et crée un réel danger pour les populations. Malgré ce danger, la surconsommation d'eau se poursuit. Les populistes sont populaires car ils jouent toujours sur les besoins les plus facilement exploitables des populations. Ils proposent des solutions factices à ces besoins immédiats en profitant de l'aveuglement des gens et de leurs préjugés. Ainsi, le problème de l'eau de Yannick Carr pourrait être celui de la terre acquise en détruisant les forêts amazoniennes, du pétrole qui est censé rendre tout le monde riche, ou même des immigrants qui sont prétendument la source de tous les problèmes. Ces gouffres béants symbolise les fosses dans lesquelles les populistes nous entraînent, raconte le cinéaste Emin Alper. Ouais, c'est une belle illustration. Mais c'est vrai que ce sont des phénomènes inquiétants, des phénomènes de manière géologique qu'on n'avait pas avant. C'est quelque chose qui est nouveau.
Ouais.
Qui est nouveau. Alors lui, il expliquerait que c'est la disparition de ces nappes phréatiques qui crée un vide et qui précipite, on va dire, les sols en surface. Mais ce qui est complètement délirant, c'est la taille. C'est vraiment vraiment gigantesque, hein. C'est pas un petit trou, hein. Donc voilà, toujours un phénomène d'actualité qui est traité dans ce film-là.
Très intéressant. Le samedi 6 mai à 18h, je vois qu'il y a un petit rendez-vous à la Brèche, une présentation, je crois, Pascal.
Voilà. Alors sur Burning Days, évidemment, oui, ça sera une soirée clin d'œil. Donc l'intervenant, donc Jean-Michel Monsieur Ribrou, donc, vient de présenter donc une introduction au cinéma turc de ces 20 dernières années et présentation du réalisateur Emin Alper. Ça sera le samedi 6 mai à 18h.
Eh bien, c'est noté, Pascal, sur l'agenda de la Brèche cette semaine. On va revenir à notre coup de cœur de la semaine. C'est un réalisateur, acteur aussi, ancien sportif, tu le disais
il y a
quelques instants. Philippe Guillard qui mérite d'être salué cette semaine puisqu'on le retrouve dans ce film Pour l'honneur, à voir sur les écrans.
Alors Philippe Guillard, d'où y a-t-il ?
Eh oui, que fait-il ?
Que fait-il ? Donc évidemment il est scénariste, réalisateur, dialoguiste.
Dialoguiste ?
Oui, il est né le 13 mai 1961 aux Abîmes. C'est où les Abîmes ? Si tu me le trouves, là, alors là je t'applaudis.
Ah, je ne sais pas.
En Guadeloupe.
Oui, d'accord. Mais...
non, là, c'était pas évident.
Ouais.
Donc, Philippe Guillard, alors c'est marrant parce que c'est 20 années de carrière, 11 films, 4 nominations, un prix. Il a eu la Salamandre d'or au Festival du film de Sarlat pour Le Fils à Joe.
Ah oui, d'accord, ok.
Mais le souci, c'est que, on m'indique 11 films et là, moi, j'en vois 4. Je sais pas s'il a fait des films pour la télévision ou je sais pas trop.
Ah.
Donc il est réalisateur scénariste, donc il a fait il a réalisé au niveau du cinéma 4 films. Donc en 2010, donc Le Fils à Joe avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. En 2014, On voulait tout casser avec Cald Merad et Charles Berling. En 2019, Papy Sitter avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Et en 2020, J'adore ce que vous faites, donc avec Gérard Lanvin et Artus. Et au niveau donc il a entièrement scénarisé tous ces films-là que je viens de citer. Mais il a scénarisé d'autres films. En 2001, 3-0 de Fabien Antonente. Il a beaucoup travaillé pour lui, ça je peux vous l'assurer. Avec Laurent Deutsch et Samuel Le Bihan. En 2003, People Jet Set 2. Toujours de Fabien Antonente. Avec Rupert Everett et José Garcia.
Rupert Everett.
Oui.
Ah d'accord.
Oui, oui. People Jet Set 2.
Non, mais Peter Everett, oui.
Rupert. C'est Rupert.
Rupert Everett, oui. Qui était aussi un ancien chanteur.
Oh, là, je sais pas, tu vas apprendre quelque chose. C'est vrai? Ah ouais? D'accord. En 2006, un film vraiment qui a cartonné en France de Fabien Antonente avec Franck Dubosc et Mathilde Seigné. Qui suis-je? Camping?
Ah oui, Camping.
Camping.
Ah oui, oui. J'étais là, ça me parlait, mais d'accord, oui.
En 2008, il a scénarisé Disco.
Ah oui, Disco, ouais.
Toujours de Fabien Antonente avec Franck Dubosc et Emmanuel Béard.
Ouais, ouais.
En 2009, pareil, il a scénarisé donc Camping 2.
Ouais.
Et en 2012, il était scénariste dans Turf, toujours de Fabien Antonente avec Alain Chabat et Edouard Baird, un film qui a un peu moins marché.
Ouais.
Moins marché quand même. Voilà un petit peu le travail de Philippe Guillard. Alors, on va parler de sa biographie.
Eh oui, c'est important.
Alors, passionné de rugby depuis son plus jeune âge, Philippe Guillard, donc, qui faisait 1m80 pour 76 kilos, il avait quand même un petit colosse, quand même.
Il mange bien à la cantine.
Et formé au Sporting Club Universitaire de France, puis intègre le Racing Club de France en 1982, où il évolue au poste de trois quarts aile gauche.
Ouais.
Jusqu'en 91, année où il met un terme à sa carrière, il joue dans ce célèbre club parisien et devient champion de France en 90 après avoir battu le SU Agen en finale. Donc Philippe Guillard entame ensuite une carrière de journaliste présentateur pour Canal+ et participe à plusieurs émissions comme Les spécialistes rugby, La nuit du rugby ou Beijing Soir, donc ça c'est pour les jeux olympiques, Jour de Coupe du Monde ou encore Canal Rugby Club. En 2017, il rejoint la rédaction Rugby de France Télévisions pour le tournoi des Six Nations et 2 ans plus tard, l'équipe des Tontons Flankers sur Eurosport 2. Donc un gros travail de journaliste. Parallèlement, Philippe Guillard participe à l'écriture des comédies comme 3-0, Camping, Disco, Camping 2 et Turf. En 2010, il réalise son premier long-métrage, donc Le Fils à Joe, emmené par Gérard Lanvin, en ancienne légende de rugby, peinant à s'occuper de son fils. Le cinéaste poursuit avec On voulait tout casser, un film de potes avec Cald Merad, Charles Berling, Benoît Magimel et son comparse, Vincent Moscato. Et en 2020, l'ex-rugbyman signe Papy Sitter, une comédie dans laquelle il refait appel au tandem Lanvin-Marchal après Le Fils à Joe. 2 ans plus tard, il met en scène son 4e long avec J'adore ce que vous faites, porté là encore par Lanvin, jouant ni plus ni moins que son propre rôle. Et c'est vrai, hein,
ouais.
Lanvin est acteur dans le film. Il est poursuivi par Artus qui est super fan et qui arrête pas de l'emmerder partout.
Oui, c'est excellent, et bien aimé. Ouais.
Donc il est accompagné par de l'humoriste Artus, lequel incarne le fan envahissant et gaffeur aux côtés de l'acteur. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour Philippe Guillard pour l'instant, parce qu'évidemment il arrive sur le cinéma, dans le monde du cinéma sur le tard, et on lui souhaite plein d'autres succès. Moi, je lui souhaite un grand succès pour l'honneur.
Oui, je pense que ça va être un très très bon rendez-vous cette semaine, c'est léger.
La comédie tranquille,
c'est sympa,
de la semaine.
Avec bien évidemment des acteurs séduisants qu'on a envie de voir justement sur les écrans en tout cas. Ça fait toujours plaisir de retrouver une bande de copains en quelque sorte.
Exactement.
Parce que je pense qu'ils ont dû bien se marrer sur le tournage.
Oui. Il connaît très bien son staff.
Oui, j'imagine. J'imagine, et vous aurez donc la chance de découvrir en fin de film la chanson de Francis Cabrel, hein, qui signe justement pour l'honneur
Le morceau de la fin, voilà, qu'il a promis.
Et ouais, c'est ça.
Et on a hâte à l'apparition de découvrir. Voilà. Et de Patrick Sébastien.
Voilà. On le fera découvrir en radio puisque le titre est en cours d'acheminement, hein, sur les radios. C'est fait partie des objectifs de la semaine, je pense, et on devrait l'avoir.
Oh, super,
on va
ça.
Le jouer très prochainement sur Radio Grand Air. Il n'y a pas de souci.
Et puis je pense que c'est la première fois que Francis Cabrel fait une chanson sur le rugby.
Alors oui, c'est fort possible.
Il en a fait sur la corrida, mais pas sur le
exactement,
rugby.
Exactement, hein. Oui, c'était un autre sport, effectivement. C'est, voilà, avec un angle tout à fait différent. Pascal, merci pour ce nouveau rendez-vous de l'émission Entr'Actes. C'est toujours un plaisir de s'instruire avec toi, puisqu'on a plein d'infos comme ça qui tombent, avec plein de papiers partout. Beaucoup de recherches.
Ouais.
Ça demande beaucoup de travail, d'énergie. En tout cas, on te remercie. De ce travail que tu effectues chaque semaine sur la radio.
Merci à toi de m'accueillir à chaque fois.
Ah ben tu m'accueilles chez toi en plus, hein, c'est ça qui est bien.
C'est vrai, ouais. Moi je t'accueille souvent toi et toi tu m'accueilles dans ta boîte.
Ah, voilà, c'est ça la boîte, hein, c'est la boîte magique. Pascal, on se quitte avec le mot de la fin cette semaine.
Eh bien prenez soin des vôtres, regardez-moi la télé, écoutez Radio Grand Air et mais venez au cinéma, venez découvrir tout ce qu'on a à vous offrir. Il y a plein de choses. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine cinématographique, et si vous venez pas au cinéma, eh bien, profitez du soleil, sortez.
Absolument.
Oxygénez-vous.
Jardinez.
Voilà, allez voir la nature, jardinez. voilà, profitez des fleurs, des oiseaux. Voilà, c'est important. Ça repose et on en a tous besoin.
Et vous changez d'air.
Exactement, oui.
Merci Pascal, à la semaine prochaine.
Merci à toi Christophe. À très bientôt.